Tout arrive en compagnie aujourd'hui d'Emmanuel Loyer, Pascal Horry et Michel Vignard pour une émission préparée par Fanny Richer, Brigitte Masson, Antoine Lachant et Florence Coupry. Prise de son, Martin Delafosse, une émission réalisée par Laurence Millet. C'est du côté de Java que nous partons à présent avec le second livre à notre sommaire. Il est signé Roger Vaillant, son titre Borobudur, Voyage à Bali, Java et autres îles, préface de Marie-Noël Rio. C'est aux éditions du Sonneur. Alors Roger Vaillant, romancier, entré en résistance en 1942, auteur de Drôle de jeu, son premier roman, 45, qui sera un prix interallié. Il aura le prix Goncourt en 57 avec La Loi. Roger Vaillant, journaliste, grand reporter, grand fêtard aussi. Grand libertin. On va retrouver tout ça dans ce voyage. En 1950, il part donc pour l'Indonésie, un état qui vient d'être indépendant l'année précédente, et que Vaillant va parcourir, donc Java, Bali, Sumatra, sensible alors aussi bien à toute la mythologie qui parfois croise son goût libertin, l'histoire du dernier roi des Mataram, bien sûr, qui nous intéresse, parce qu'elle aurait...
Ah oui, qui m'intéresse, en tout cas.
J'imagine bien, voilà. Qui se serait fait emmurer dans son palais avec ses 10 000 concubines pour y mourir jusqu'à la fin, plaisir.
Voilà.
Mais bon, il s'intéresse évidemment aussi au système de classe de la société indonésienne. Il s'intéresse et s'émeut beaucoup devant l'essaim des jeunes balinaises, également jusqu'à ce qu'il en pleure, littéralement. Quel regard, alors tiens, Michel Vignard sur ce livre, alors très belle couverture aussi d'un violet magnifique qui rappelle les couleurs de France Culture en l'occurrence. Michel Vignard.
C'est un grand plaisir. Alors moi, j'aime le reportage, j'aime le style sec, le montage cut, hein, cette façon de gommer les distances pour rendre l'étranger proche, qui est le propre du journalisme. Cette manière aussi d'être plongé en quelques paragraphes dans une atmosphère, l'impression qui est sans doute tout à fait fausse, mais qui est quand même extrêmement agréable, de connaître ce qu'on n'a jamais vu, hein, et ce dont on est si loin. Et là, je crois qu'à toutes les pages, on a ce plaisir. Bon, j'accepte quelques fiches qui passent dans le corps du livre et qui sont un petit peu didactiques.
Il y a quelques lectures mal digérées,
oui,
mais c'est peu fréquent.
Il y en a quelques-unes. Mais sinon, c'est un grand plaisir d'exotisme. Voilà, c'est un grand plaisir d'être ailleurs avec quelqu'un qui a le sens du croquis, qui sait en quelques lignes, en 10 lignes, en un paragraphe, saisir un moment complètement bizarre, étrange, et qui en même temps est représentatif d'un certain état du monde. Et l'état du monde en 1950, c'est quand même en Indonésie l'indépendance, ce basculement qu'on sent très fort, politique et humain. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est de voir l'indépendance de l'Indonésie, le sort des Hollandais qui étaient là et qui sont encore là, dans cette espèce de marasme, d'ennui, de nostalgie, d'un monde qui est en train de changer profondément.
Emmanuel Loyer.
Oui, parce que dans sa biographie, vous n'avez pas dit qu'il est communiste. Enfin, il aura sa carte en 1952 officiellement, mais enfin, il a une sensibilité communiste. Mais ce qui est intéressant, moi je suis d'accord, je trouve que c'est un très beau livre. C'est que c'est un récit de voyage, c'est un communiste, donc il y a une vision communiste du monde, l'anti-américanisme de guerre froide, l'explication de l'homosexualité par la polygamie, enfin, l'analyse marxiste du pouce-pouce, enfin toutes ces choses, mais en même temps c'est un communiste aristocrate, c'est un communiste stendhalien, d'ailleurs il cite beaucoup Stendhal, c'est un communiste hétérodoxe et donc...
Et hétérosexuel, parce que son regard sur les homosexuels...
Et Pascal aujourd'hui, oui,
c'est vrai que ça
intervient parce que c'est quelqu'un... Mais enfin, il dit que pour la première fois, il a approuvé un décret puritain, d'ailleurs, à propos de Bali. Enfin, ça, c'est une histoire qu'il raconte un petit peu. Mais je poursuis sur ce que je disais, c'est que c'est un récit qui est intéressant parce que c'est riche de ses propres contradictions de communiste stendhalien. C'est-à-dire qu'à la fois, certes, la vie nocturne, les bordels, hôtels, les bars des grands hôtels, c'est quelque chose qui est une sorte de symbole de la vie coloniale. Et en même temps, c'est sûr que Roger Vaillant, il aime ça. Il aime ça et que ça disparaisse. Bon, ça l'ennuie. Et en même temps, il y a aussi ce ton, certes, de la meilleure littérature de grand reportage. Et je ne trouve pas qu'il y ait tellement des fiches. Simplement, c'est bien informé. C'est vrai qu'il va voir, il lit des bouquins du professeur de la Sorbonne.
Il y a deux ou trois petits tunnels, mais c'est secondaire.
Mais à côté de ça, il y a aussi un ton, je dirais, un peu matinal. Parce que ce n'est pas non plus un récit de voyage, ce n'est pas un retour du pays de l'avenir radieux. Ce n'est pas le bon communiste qui fait son récit de voyage après être allé en URSS. C'est quelqu'un qui
va... L'histoire du Parti communiste indonésien nous est ici racontée
avec
beaucoup
de... Oui, tout à fait. Mais en même temps, on est dans une situation...
Ça vibre, hein ?
Oui, non, tout à fait. Bah, faut dire, c'est vrai que c'était je veux dire, on pouvait être anti-américain dans ces moments, en 1950, quand on voit comment le président Sukarno est soumis à ce dilemme assez ignominieux, il faut bien dire. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a ce ton, je dirais, presque un peu matinal, dans un moment d'espoir, comme ça, de cette jeune république indonésienne dont on ne sait pas encore ce que ça va donner.
Pascal Auré.
Oui, c'est un texte dont la réédition, grâce à de courageuses éditions, les éditions du Sonneur, se sont spécialisées, entre autres, dans la réédition de textes peu connus, nous permettent de nous rappeler que Vaillant, comme tant d'autres, était peut-être d'abord un journaliste. Mmh. Après tout, Baudelaire était aussi un journaliste. On finit par oublier cette dimension de quantité d'écrivains désormais célèbres. D'ailleurs, peut-être que Vaillant s'efface un peu en ce moment à l'horizon, et je le regrette. Et un journaliste qui a l'œil, qui sait tout de suite sortir, puisque c'est un politique, hein, c'est clairement un politique, compagnon de route, contre le Parti communiste, mais qui sait sortir d'une petite scène, d'une chose vue, comme disait Victor Hugo, une signification politique. Je fais une citation peut-être un tout petit peu longue, mais sur l'Égypte, parce qu'il y a un long prologue. Il faut 8 jours pour arriver, il faut quand même penser à ça,
1951,
il faut 8 jours pour arriver en Indonésie. Et alors, la présence française en Égypte est un des thèmes favoris des diplomates en retraite, des conférenciers mondains, des députés qui désirent obtenir une mission à l'étranger, des missionnaires qui ont besoin d'argent pour leurs écoles d'Orient. Il ne faut pas les croire. Les Égyptiens sont dans leur très grande majorité des musulmans. La seule langue qu'ils parlent habituellement est l'arabe. Pour l'avoir oublié, la diplomatie française a déjà connu bien des déboires et c'est pas fini. C'est d'une grande lucidité, sauf peut-être quand il s'agit des communistes, mais en général c'est d'une très grande lucidité et en même temps c'est d'une très grande sensualité, d'où quand même la contradiction qu'il sent bien, mais qu'on connaît bien chez Vaillant, parce que vers la fin, il parle de Saint-Just et de Robespierre, qui avaient découvert que le patriote et le révolutionnaire doivent être vertueux, Brutus aussi. Il ne commande pas, mais on sent bien qu'il est quand même dans sa propre contradiction. Parce que la manière dont il nous parle des orchidées, la manière dont il nous dit...
Là, il y a un morceau de Bravo, je crois qu'il faut citer quand même.
C'est d'un érotisme tout à fait torride. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, peut-être les orchidées ou même...
Juste en attendant que tu cites, je voulais dire sur les orchidées, il y a, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en même temps, il dit l'orchidée, c'est le luxe d'une certaine façon, parce que c'est très fragile comme fleur, etc. Et il dit quelque chose qui me semble très représentatif de ce type de communiste un peu spécial, c'est qu'il dit « Seules les sociétés aristocratiques et les sociétés communistes permettent les arts de luxe. » Donc finalement, son programme politique à Vaillant, c'est le luxe pour tout le monde.
Oui, son communisme rêve, c'est le bonheur. Là, on cite de nouveau Saint-Just, idée neuve en Europe. Bon alors, avant d'arriver aux orchidées, la fleur du pommier qui écarte tout de suite ses pétales et offre à tous les regards bien étalés ses étamines et son pistil entremêlés est une Marie, couche-toi là. La rose, dont les organes sexuels ont été mué par l'horticulteur en pétale, est un gros castrat, etc. Et puis cette superbe phrase, l'orchidée se défend aussi longuement que la présidente des liaisons dangereuses. Ça, c'est la synthèse vaillandesque.
Il a écrit un livre sur les liaisons.
Sur les liaisons, sur le cardinal de Bernis, etc.
Oui, le libertinage est présent d'un bout à l'autre de ce livre. C'est un homme qui ne s'oublie jamais. D'ailleurs, il y a quelques passages qui sont des passages carrément autobiographiques dans ce livre. Et moi, la question que je me suis posée quand même, Pascal en disait un mot, c'est à quel point Roger Vaillant est tombé dans l'oubli. Alors, il est mort jeune, il est mort à 57 ans. Il est mort en 65 et il a été enterré. Alors, il a été communiste et le communisme
il gênait beaucoup de monde, je pense,
a fait son temps. Il est mort à une époque où le nouveau roman est venu donner un coup de vieux à toute une littérature, comme la nouvelle vague a démodé en fait tout un cinéma. Et en fait, il n'a pas survécu, alors qu'il y a des qualités littéraires, il y a une acuité du regard, il y a un sens de la formule. Hein, il y en a de très belles. Il dit « La petite France ». là-bas, en Orient, on ne la connaît pas bien. La petite France socialo-démocrétienne est en train de se portugaliser. Bon, on voit très bien ce qu'il veut dire. Ou bien, la colonisation hollandaise réussit ainsi le prodige d'exploiter les colonisateurs en même temps que les colonisés. Bon, y a vraiment de l'ironie, l'humour, un sens. J'ai été étonné, dans la dernière page, il cite qui ? En 1950, il cite René Dumont. René Dumont, et je dirais que nous connaissons tous, hein, l'écologiste de la première heure. Donc il y a vraiment de l'information, il y a un sens de son temps, de son époque, et tout ça a sombré en définitive.
Et il finit par citer Rimbaud, hein, dans les toutes dernières phrases de ce livre qu'on pourrait commenter. Il cite Rimbaud, « Vous êtes de faux nègres, vous, maniaque, féroce, avare, marchand, tu es nègre, magistrat, tu es nègre. » C'était en 1871, la dernière phrase de ce texte de Roger Vaillant. « Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir de vrais nègres. »
Tout à fait. L'une des qualités de ce livre qui réconcilie justement les différentes facettes de Vaillant, c'est qu'il faudrait le lire en parallèle avec la correspondance. On parlait tout à l'heure de la correspondance Simone de Beauvoir, Nelson Algren. Là, il y a une correspondance qui manque parce que c'est Gallimard qui en a les droits et que Gallimard d'ailleurs a très bien publié, qui est la correspondance avec la femme de sa vie, Elisabeth Naldi, qu'il vient de rencontrer quand il part à Borobudur. Et il refuse d'ailleurs une escapade en Chine parce qu'il veut la retrouver plus vite.
Oui, il le dédie, hein, je dédie ce livre à Elisabeth Naldi pour qui il fut écrit chaque soir d'un voyage trop long.
Trop long, voilà.
Donc pourquoi il refuse la dernière étape?
Mais
Emmanuel
pour rebondir
Loyer,
sur ce que vous disiez, oui, c'est aussi que ce voyage est évidemment l'occasion de se rendre compte que cette petite France hexagonale, après 45, elle ne représente plus grand-chose, et il le dit avec beaucoup de lucidité. Par ailleurs, pour ajouter sur le côté saisissant de certaines des analyses historiques, c'est vrai qu'il arrive à nous montrer à quel point on est dans ce moment de basculement. Il analyse la décolonisation par le déglingage des hôtels de luxe en deux lignes, l'américanisation
l'hôtel
du monde.
L'hôtel des Indes comme le château de Kafka.
Voilà, ça, exactement, ouais. C'est très beau ce passage. L'américanisation du monde par le succès du boogie-woogie. Et aussi un passage très intéressant sur une vision presque post-coloniale de cette période-là, c'est la désinfection, je dirais, post-coloniale des touristes occidentaux qui sont dans les avions pakistanais, et on les désinfecte vraiment avec... C'est vraiment le retour du bâton, et ça, il sait le voir en quelques phrases.
Voilà, le vade-mecum du voyageur. Hein. Et s'il en est ainsi, aujourd'hui, dans toute l'Asie, un blanc qui veut créer un contact humain avec un homme du pays doit, un, s'excuser d'être un blanc, deux, s'il appartient à une nation du bloc occidental, prendre nettement position contre l'intervention occidentale en Corée, trois, s'il est français, se désolidariser de la politique de nos gouvernants au Vietnam.
Ce que faisait Vaillant,
j'imagine, à chaque nouvelle rencontre. En tout cas, ce texte, Borobudur, Voyage à Bali, Java et autres îles, est publié aux éditions du Sonneur, grâce leur soit rendu, avec une préface ici de Marie-Noëlle Rio.